Studio Tamani, voici les informations en français.
Le Mali demande le retrait sans délai de la mission de l'ONU dans le pays. Déclaration faite aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, devant le Conseil de sécurité. Plus que quelques heures avant la fin de la campagne référendaire dans ce journal, nous ferons un focus sur les derniers préparatifs avant le scrutin. 15 morts et plusieurs disparus, c'est le bilan du chavirement d'une pinasse survenue ce jeudi à 5 km de Gourmararous. Voilà les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. Le gouvernement du Mali s'oppose aux trois options issues du rapport sur l'examen interne de la MINUSMA. Il l'a fait savoir dans un mémorandum de 7 pages publié ce 14 juin 2023. Dans le même document, le gouvernement met en cause des points cités dans le dernier rapport trimestriel de l'ONU sur la situation au Mali. Les détails avec Adama Amadou Haïdara.
Ces trois options sont l'augmentation des effectifs des casques bleus, une reconfiguration à effectifs constants et une transition vers une mission politique sans casque bleu. Ces options ont été proposées en janvier dernier par le secrétaire général des Nations Unies. Le gouvernement note par ailleurs les évolutions intervenues dans le mandat de la MINUSMA. Selon lui, en 2013, la MINUSMA a été déployée pour appuyer les autorités maliennes à stabiliser la situation sécuritaire, à écarter les menaces et empêcher le retour d'éléments armés dans les zones concernées. Mais au terme d'une présence de presque 10 ans, un bilan de cette présence s'impose, souligne le document. Dans le mémorandum, le gouvernement met également en cause quelques paragraphes cités dans le rapport du secrétaire général de l'ONU couvrant la période du 31 mars au 1er juin 2023. Il s'agit notamment des cas de violation des droits de l'homme imputés aux forces de défense et de sécurité maliennes.
Je l'ai annoncé tantôt dans les titres, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA, a déclaré Abdoulaye Oumar Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la tribune des Nations Unies. C'était lors de la présentation ce vendredi du rapport trimestriel de l'ONU sur le Mali.
Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan des 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Ni les propositions du secrétaire général, encore moins le projet de résolution en cours de négociation par les membres du Conseil. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter.
Suivez l'actualité du référendum à travers le journal de la campagne référendaire de Studio Tamani.
Informer pour comprendre.
Dialoguer pour s'entendre.
Studio Tamani accompagne
le scrutin référendaire 2023.
La campagne référendaire sera clôturée ce vendredi à minuit. Mais en attendant, les tendances du oui et du non mobilisent la population pour l'inciter à voter massivement le dimanche prochain. Si pour le mandataire du oui, le bilan de la campagne est satisfaisant, malgré un début timide, le camp du non a organisé ce vendredi des prêches dans certaines mosquées pour inciter les fidèles à voter le 18 juin contre le projet de constitution. Lalé Tangara.
Selon le mandataire national du oui, Aboubakar Sidi Kifomba, le bilan de la campagne est jugé satisfaisant à Bamako et à l'intérieur du pays. Selon lui, le camp du oui a mobilisé les citoyens dans presque toutes les régions et cercles du Mali afin de voter massivement pour le oui le dimanche prochain. Des grands meetings populaires, des conférences de bas et de presse ont été organisées à travers le pays, a-t-il poursuivi. Le mandataire du oui a aussi indiqué que leurs militants ont été assistés lors des retraits des cartes de lecteurs. Aboubacar Sidiki Fomba demande à chaque Malien de ne pas rester en marge du scrutin, car chaque voix compte pour l'adoption du projet de la nouvelle constitution. De son côté, le camp du non a aussi jugé sa campagne satisfaisante. Et cela, malgré certaines restrictions constatées, ça et là. La tendance du non a organisé ce vendredi des prêches sur la laïcité dans certaines mosquées du pays pour inviter les fidèles à voter contre le projet de constitution.
Référendum en région. Les activités autour de la campagne référendaire se terminent également ce vendredi à l'intérieur du pays. Ces derniers réglages sont marqués par la distribution des cartes d'électeurs et la fin des formations des assesseurs et présidents des bureaux de vote. Le point avec Aboubacrine Ag Mohamedine Yatara.
À Nsongo, la campagne référendaire bat son plein depuis ce matin. Le parti Mouvement Patriotique pour le Renouveau, MPR, invite ses militants à voter massivement pour le oui. Une dernière séance de vulgarisation du contenu de l'avant-projet de constitution a été organisée aux militants du parti. À Yuwaru, 190 agents, assesseurs et présidents des bureaux de vote ont achevé ce jeudi une session de formation sur l'organisation du scrutin référendaire. À Banyangara, les forces vives de la ville ont organisé un grand meeting populaire ce vendredi pour inviter les populations de la ville à plébisciter le 8 le 18 juin 2023. Par ailleurs, la distribution des cartes de lecteurs se poursuit dans la ville. Un autre meeting populaire en faveur du 8 a été organisé aussi ce jeudi à la place publique de Kai. Il faut noter qu'aucune activité de campagne en faveur du non n'a été signalée dans ces différentes localités.
Pourquoi voter oui? Pourquoi voter non?
Le parti Union pour la démocratie et le développement UDD appelle ses militants à voter contre le projet de constitution le 18 juin prochain. Pour les responsables du parti, les conditions minimum d'un scrutin référendaire ne sont pas réunies. Il s'agit notamment des raisons liées à l'insécurité et à la souveraineté du pays sur l'ensemble du territoire. Mamadou Lamine Diarra est secrétaire général du parti UDD à Koulikoro. Il est joint par l'allée Tang.
Le référendum là ne répond pas tellement aux critères dont nous on a suggéré de dire non à la constitution. Non seulement que nos propositions n'ont pas été prises en compte, il y a également l'aspect sécuritaire aussi qui est là. Et jusqu'à présent, on sait que le pays n'est pas en sécurité et que la souveraineté du Mali ne s'étend pas sur tout entier du territoire national. Donc ce qui fait en sorte que la constitution de 1992 signifie qu'il doit y avoir des révisions constitutionnelles, on doit pouvoir arriver à consulter tous les Maliens partout où ils sont. C'est un peu regrettable pour nous que chaque Malien n'arrive pas à dire son point de vue par rapport à la constitution du Mali. Donc ce qui veut dire avant nous, on dit que les conditions ne sont pas réunies pour faire un référendum au Mali. À notre niveau, l'UDD, on dit non.
Parole à Lège.
Des experts en organisation d'élections estiment que la réussite d'un scrutin passe nécessairement par les données fiables issues des bureaux de vote. La question a été abordée par l'autorité indépendante de gestion des élections au cours d'une récente rencontre. Elle indique que pour être recruté, un agent électoral doit remplir les conditions de bonne moralité et de bonne probité. Maître Moustapha Cissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections, ai-je réagi au micro de Mamadou Samasekou.
Les missions que nous avons envoyées déjà sur le terrain ont commencé déjà à identifier. Ils vont poursuivre cette identification avec les coordinations de l'EJ et les différentes structures de l'administration qui sont présentes pour choisir des gens quand même qui connaissent. Mais il n'est pas dit aussi que ceux qui ne peuvent pas lire la loi électorale ou qui n'écrivent pas ne peuvent pas être dans le main. Le bureau doit comporter en son sein quelques qualités de personnes qui savent lire, écrire et qui doivent pouvoir remplir les actes. Parce que c'est la qualité de remplissage de ces documents électoraux, des imprimés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait la qualité du scrutin. C'est là qu'il va y avoir les procès-verbaux, des résultats qui vont remonter, qu'on va exploiter. Mieux c'est bien fait dans le bureau de vote, mieux ça pourra servir pour la compilation des résultats.
Autre actualité du jour, 15 morts, 8 rescapés et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire du naufrage d'une pinasse de Fourin en provenance de Rarous pour Djiri dans la région de Tombouctou. Selon des sources locales, le drame provoqué par une forte tempête de sable s'est produit ce jeudi au niveau du campement Bozo Mamadou Houmoukoï. Les corps retrouvés ont été enterrés ce vendredi à Rarous. À la faveur du référendum prévu ce dimanche 18 juin, Studio Tamani réadapte son programme exceptionnellement. Vous pourrez suivre trois éditions spéciales référendum ce jeudi 18 juin à 8h, 13h et à 17h. Un grand dialogue spécial référendum sera également diffusé à 18h15. Tous ces programmes seront diffusés sur l'ensemble de nos radios partenaires à travers le pays. Studio Tamani accompagne le scrutin référendaire. À quelques jours de l'examen du baccalauréat malien, les candidats et les enseignants se mobilisent dans certains établissements secondaires. Le programme est exécuté à 100%. Les élèves estiment être en pleine révision pour réussir cet examen. Un reportage de Oumar Waïgalo.
De la rive gauche en passant par la rive droite, de nombreux établissements publics et privés ont fini avec l'exécution du programme. Certains établissements ont même commencé des cours de remédiation pour corriger certaines lacunes des candidats. Abdrahman Maïga, proviseur du lycée Mamadou Sarr.
Il y a des matières où les programmes sont exécutés à 100%. Cette année, nous n'avons pas connu du tout, on peut même dire, de mouvement, ni du côté enseignant, ni du côté élève.
Les candidats aussi se préparent activement. Si certains font des exercices pratiques, d'autres font des révisions générales.
Pour le moment, on est là à faire des exercices et à prendre des leçons.
On a déjà appris nos leçons. On est là à faire des exercices seulement.
Il faut noter que les épreuves écrites du baccalauréat malien débuteront le 19 juin prochain.
Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Alors Mariam, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Quelle explication au problème au sein du football féminin? C'est le thème de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Et pour en parler, nous avons deux invités, tous des chroniqueurs sportifs, Adama Maïga et Ibrahima Ban. Et je rappelle que cette émission se fera en langue nationale bamanankan.
Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine économique.
Le scrutin référendaire du 18 juin 2023 est un moment unique pour exprimer votre pleine citoyenneté.
Ne restez pas chez vous et laissez les autres décider à votre place. Sortez massivement et rendez-vous dans les centres de vote pour exprimer votre choix.
Déposez dans l'urne le bulletin blanc si vous votez oui, le bulletin rouge si vous votez non.
En plus de la carte d'électeur, vous devez avoir l'un des documents suivants comme pièce justificative pour pouvoir voter.
Carte nationale d'identité, passeport, carte NINA, carte consulaire, permis de conduire, livret militaire, livret de pension civile ou militaire.
Studio Tamani et ses partenaires
accompagnent le scrutin référendaire du 18 juin 2023. Studio Tamani.
Les marchés périodiques, appelés foires hebdomadaires, existent au Mali depuis le temps des empires. Ce système commercial et d'approvisionnement des villes et villages constitue de nos jours un facteur d'émergence économique. Au-delà de ce rôle dans l'approvisionnement des régions, les foires ont aussi un apport considérable dans le développement de ces localités, ont indiqué des économistes. Pour des élus et habitués de ces marchés, chaque foire constitue un fournisseur d'emplois et un marché des biens et des services. Nous proposons dans ce magazine de l'économie une analyse des foires par les acteurs et ce que peut être leur rapport sur l'économie rurale et urbaine. Et c'est avec Mamadou Samasekou en collaboration avec des correspondants à l'intérieur du pays.
Pour les habitués de ces foires hebdomadaires dans les régions de Bandiagara, Yelimane et Sikasso, les paysans utilisent régulièrement les foires pour satisfaire leurs besoins en échangeant de biens et services.
Vendre au marché est bénéfique pour nous. Cela nous permet d'aider nos époux. Par exemple, si tu gagnes un peu, tu peux dépanner ton mari, car souvent, ils peuvent ne pas avoir d'argent pour les dépenses familiales.
Il se peut que tu aies des produits qui ont duré des années sans que tu ne puisses les vendre. Mais pendant ces foires, quelqu'un peut les acheter. Les foires sont bénéfiques pour le pays. Ça facilite beaucoup beaucoup de choses et ça crée des liens et les prix sont abordables.
Tout le monde sait que les temps sont durs. Malgré cela, à Sikasso, l'effort hebdomadaire sont bénéfiques.
Pour l'économiste Abdoul Karim Djamoutene, ces rencontres sont surtout une opportunité pour les paysans de vendre leur production. Selon lui, les profits s'augmentent au fur et à mesure que ces marchés ruraux se densifient.
C'est l'occasion pour les producteurs en milieu rural d'écouler leur production parce qu'ils ont produit, ils sont souvent en général dans les coins les plus reculés et souvent l'accès à travers les infrastructures n'étant pas souvent forcément de qualité ou bien n'existant pas. Donc l'accès aux zones urbaines souvent est difficile ou bien le coût de transport est élevé et c'est pas à leur portée. Du coup, ces foires hebdomadaires-là constituent, n'est-ce pas, une courroie de transmission entre le milieu rural et le centre urbain.
Madame Touré, Rahamatou Bagayogo et Nuhun Siribé sont successivement à la mairie de Sikasso et celle de Ségou. Ils affirment que ces foires hebdomadaires, en plus d'être rentables, sont de véritables rendez-vous socioculturels.
La mairie n'étant pas seulement que commerciale, on est social, on est tout, administratif aussi. Même des pays voisins s'invitent souvent à la foire de Sikasso. Obligatoirement, les recettes et les taxes augmentent.
Ségou Téné, ça réveille notre culture. La réalité, c'est ce que nous vendons, ce que nous achetons. Donc Ségou Téné, c'est un creuset véritablement de rendez-vous et chaque lundi qui consacre l'économie locale, le développement économique, social et culturel.
Cependant, les localités situées dans les zones en proie à l'insécurité regrettent ne pas tirer le maximum de profits. Yeya Konta, le maire d'Alafia à Tombouctou, évoque l'incivisme. Pendant que le régisseur de la mairie de Bandiagara, Malé Guindou, parle de manque d'organisation.
Avec la crise de 2012, nos collecteurs ont commencé à avoir de sérieux problèmes parce que les gens deviennent réticents à payer les redevances parce qu'il n'y a pas de service de sécurité à ce niveau pour appuyer les collecteurs.
La mairie quand même avait pris l'initiative vraiment de faire des places pour bien identifier la place de tout un chacun. Et en ce moment, la mobilisation serait facile et le désordre aussi, on allait éviter. Mais avec l'insécurité et tout, on n'a pas pu faire ce travail d'abord.
Des économistes estiment que ces foires hebdomadaires constituent le moteur de l'économie d'un pays. Ils ajoutent que celles-ci ont une importance capitale dans la mobilisation des ressources internes des communes. Abdoul Karim Djamoutene, économiste.
Si ces marchés-là n'existaient pas, il serait difficile d'approvisionner les centres urbains, donc le pays serait dépendant quasiment de l'importation des produits. Donc c'est presque la colonne vertébrale, le centre névralgique de l'économie globalement. Quoi. Donc aussi bien au niveau de la production que de la consommation. D'abord, constitue un pôle d'attraction qui constitue une source de revenus pour les producteurs et les consommateurs en milieu rural, également une source d'approvisionnement pour les centres urbains. Et donc vraiment, c'est le moteur de l'économie.
Selon toujours les économistes, si l'État s'implique comme il le faut, ces foires hebdomadaires, en plus d'être des piliers de l'économie du pays, sont des véritables vecteurs de cohésion sociale.